when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thunes Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thunes continue, je compte sur vous. Thunes, le premier podcast intime sur l'argent.
9 tableaux sur 10 que j'achète, je ne sais pas à qui je vais les vendre. Donc oui, il y a un petit côté. Alors quand tu dépenses 300-400 euros, ça va. Mais quand tu commences à mettre 3-4 000 sur un tableau, voilà, tu te fais un peu une suée, tu vois.
Marc est un vendeur, un marchand, et qui plus est un marchand d'art. Alors comme tous les bons commerçants, il a ce truc de nous faire rêver sur sa marchandise. Et plutôt que de parler cash de thunes, il cache un peu la réalité crue de ses angoisses pécuniaires. Il enrobe, il décore, il nous dépeint un paysage qui nous emporte et nous fait voyager. Et ça marche d'autant mieux que son produit est si poétique, si esthétique. Mais en grattant, sous le vernis, sous la patine, on finit quand même par parler d'argent, et c'est plutôt intéressant. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Marco. Marc, tu as 47 ans, tu es vendeur d'art, vendeur de tableaux, c'est ça?
Oui.
C'est-à-dire que tu fais quoi concrètement?
Ben en fait, je passe mon temps à chercher physiquement dans les brocantes, dans les salons d'antiquaires, chez les clients, des tableaux, mais que je cherche aussi beaucoup sur Internet. Je regarde un peu toutes les ventes qu'il y a en France et voilà, j'essaie de regarder, de trouver des jolis tableaux ou des tableaux intéressants. Et que j'essaie d'acheter et après de les revendre.
Donc là, on est chez toi. Je vois beaucoup de tableaux autour de moi. Tu as combien de tableaux chez toi, à peu près?
Je ne sais pas. Oui, on ne doit pas être loin de 150 tableaux, ouais. Ah, il y a une pièce où il y en a encore plus.
Et ça représente combien d'argent?
Ah, aucune idée. Et puis, je pense que... Quand même, je pense que les deux tiers de ce stock, ceux que tu sais, ceux que tu gardes, donc ce n'est pas forcément les meilleurs achats que tu as fait. Après, il y a un tiers que je n'ai pas encore montré, qui sont ici et que je n'ai même pas encore mis en vente. Mais je pense que dans ce stock, oui, il y a les deux tiers, c'est clairement des achats qu'il ne fallait peut-être pas faire.
C'est des trucs qui sont durs à vendre.
Oui.
Il y a une part de prise de risque, en fait, dans ton métier.
À fond.
Quand tu achètes un tableau, tu ne sais pas du tout si tu l'achètes au bon prix. C'est toute la question.
Si. Alors ça, au début, tu te poses cette question. Mais maintenant, quand j'achète un tableau, je pense que je sais ce qu'il vaut. Et soit j'achète, soit je n'achète pas. Et je pense que les mauvais achats, j'en fais clairement moins qu'au début.
Tu as commencé quand?
Il y a 12 ans. Avant, j'ai travaillé dans une salle des ventes où j'étais clerc de commissaire-priseur, c'est-à-dire assistant de commissaire-priseur. Donc j'ai fait ça pendant 8-9 ans, c'est ce qui m'a amené à Marseille. Et donc à mon compte, je suis à mon compte depuis 2010, donc 12 ans.
Tu t'es mis... C'est quoi ton statut de boîte?
Auto-entrepreneur.
Tu t'es mis en auto-entrepreneur direct?
Ouais, parce que j'ai une petite structure, que j'ai pas d'employé, voilà. Et puis c'est le mieux quand tu te lances de faire ça, voilà.
Alors quand tu commences, ça marche comment? Tu travailles un matin, tu as monté ta petite boîte, et il faut acheter des tableaux.
Voilà, et au début, bah, tu as peut-être tendance à... Bah, c'est comme tout, hein, même si j'avais peut-être déjà l'œil, bah, voilà, tu commences à chiner, à, comme je t'ai dit, à aller sur des brocantes, à activer des contacts que tu as avec des gens, suivre les salles des ventes. Et puis c'est vrai qu'au début, bon, bah, tu te lances, hein, c'est comme quand tu te lances dans une activité, c'est un peu l'inconnu, quoi. Enfin, moi, je me souviens, j'avais un travail salarié que j'aimais beaucoup. Et quand c'est moi qui ai décidé d'arrêter, que j'allais voir mes patrons et je vais leur dire j'ai arrêté, j'arrêtais quand même un CDI dans un métier que j'aimais bien. Quand je suis rentré chez moi le soir, je me suis parlé pendant 1 heure dans la glace de la salle de bain, mais vraiment en train de me dire est-ce que j'ai fait le bon choix? T'es pas un peu taré de laisser tomber un CDI? Voilà.
Tu te rappelles le premier tableau que tu as acquis en tant que...
Ouais, je me souviens. Ouais, je me souviens très bien le numéro 1 parce qu'en fait. C'est un métier où en fait c'est du commerce de biens d'occasion. Donc en fait, j'ai un livre de police sur lequel je mets tous mes achats, ils sont inscrits. Et en gros, ces livres de police, c'est réservé à ceux qui font du commerce de biens d'occasion. Donc en gros, les garagistes et les antiquaires, on va dire. Et donc tous mes achats, ils sont marqués, numérotés, à qui je l'ai acheté. Et d'ailleurs, ça s'appelle livre de police parce que si jamais tu as un contrôle, on te dit, tiens, cette affaire, elle a été, disons, volée, ce qui m'est jamais arrivé, tu vois. Mais si jamais ça arrivait, bah moi, si je vais bien marquer sur mon livre de police à qui je l'ai marqué, je ne suis pas accusé de recel ou de choses comme ça. Ça a quand même son importance, ce livre, quand tu mets un achat, tu vois.
Alors le numéro 1, c'est quoi?
C'était une petite aquarelle, début 20e, un paysage assez anodin, mais à la fois bien peint, bien encadré. Et voilà, c'était mon petit achat, et d'ailleurs, voilà, c'est...
Combien à peu près?
Oh, je sais pas, ça devait être un petit achat dans les 100, 150 euros, tu vois, voilà.
Celui-là, il est parti.
Ouais. Non, symboliquement, c'est ma mère qui me l'a acheté pour mon premier achat.
Comment tu sais quel prix tu peux fixer quand tu revends un tableau?
Alors, pour le prix, c'est pour ça que je disais un tableau, tu l'achètes parce que soit il est beau, soit il est intéressant, et puis parfois c'est les deux. En fait, on parle par exemple de la cote d'un artiste, et en fait, cette cote, pour moi, plus j'avance, moins je la regarde, parce qu'en fait, maintenant, tu arrives à déterminer si le tableau, par exemple, s'il est peint comme ça à telle époque. Ben, tu te dis, waouh, on a un précurseur et on a quelque chose de très intéressant dans les mains. Je pense à un peintre, par exemple, qui a fait que des scènes parisiennes, de scènes galantes, un peu. C'est un sujet qui est complètement maintenant démodé. Si tu rates sa cote, ça vaut pas grand-chose. Et en 1922, il a fait un voyage au Congo. Et les tableaux, ben, de ce voyage en 1922 au Congo, ben, il y en a certains qui sont au musée du Quai Branly. Et aussitôt, c'est plus recherché parce qu'il y a ceux qui sont amoureux des voyages. Donc si tu t'arrêtes à la cote de cet artiste, 98% de sa cote, ça vaut rien. Et t'as 2% tout d'un coup de trucs où tu vois que... Pff.
Ah, donc c'est quand même très précis, il faut avoir une culture et de l'art en général et du marché, ou en tout cas des gens
Ouais.
des acheteurs
Ouais.
potentiels et de leur goût.
Et de l'histoire aussi. Est-ce que le tableau, je pense qu'en particulier, si on parle de ce peintre-là, je pense qu'il y a des amateurs de gens qui aiment les peintres début 20e, qui partaient en voyage, en exploration. Et voilà, donc...
C'est qui les acquéreurs?
Tu as des gens à qui j'ai vendu, et ils m'ont acheté un tableau, et c'est one shot, et ils en rachèteront peut-être pas d'autres. Tu as des gens qui sont vraiment des collectionneurs de tableaux, et il y en a plein chez eux, et ils se font plaisir comme ça.
J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont assez passionnés dans les acquéreurs. Il y a
Ah,
des
mais
gens
t'as
qui
des gens,
sont...
mais maintenant, en plus, ça se limite parfois à 10 personnes, mais même pour les cartes postales, je me régalais en salle des ventes parce que tu voyais, t'apprenais des choses, c'est que par exemple, il y a des collectionneurs de cartes postales qui sont collectionneurs de cartes postales, métier qui n'existe plus. Voilà, un truc bien précis, tu vois. Et donc là, si tu avais une carte postale avec un montreur d'ours, alors c'est sûr que les montreurs d'ours, il y en a de moins en moins, tu vois. Et bien, mais ça se faisait un peu dans les Alpes et tout. Mais la carte, tu voyais passer, tu voyais des cartes postales qui faisaient 800 euros. La carte postale avec un montreur d'ours. Et moi, je me rappelle en salle des ventes, j'étais là, mais c'est quoi? Enfin, tu vois.
C'est ce délire. Ouais. C'est une carte postale.
Ouais, quoi. Depuis, je regarde s'il n'y a pas des montreurs d'ours un peu dans les brocantes.
C'est quoi le plus gros coup que tu as fait? Plus beau achat-revente.
Oh, bah. Je sais pas, mais il y a des tableaux que parfois, soit dans les salles des ventes, soit dans les brocantes, ils n'ont pas été capables de comprendre qui c'était. Et ça m'est arrivé, sans vraiment d'exemple précis là, mais ça m'est arrivé quelquefois, heureusement, bah, d'être le seul à avoir compris ce que c'était. Et du coup.
Ah, d'avoir compris, d'avoir identifié un tableau comme ayant de la valeur.
Ouais. Oui,
alors
voilà.
Que tout le monde passe à côté.
Et oui, et puis c'est pareil, tout marche un petit peu au mot-clé et tout, donc s'il n'y a pas les bons mots-clés, les gens ne sont pas alertés. Et j'avoue que moi, je joue beaucoup à ça, quoi, à essayer de voir ce que les autres n'ont pas vu. Voilà.
Il y a parfois une ambiance électrique dans les salles des ventes.
Alors malheureusement, j'allais dire, il y en a de moins en moins. Il y a encore 5-6 ans, tu avais des salles à Marseille où tu rentrais, tu n'avais même pas une place pour t'asseoir, tout était rempli. Et c'était un espèce de bois, mais presque c'était une pièce de théâtre. Tu vois, il y a quelque chose d'assez, attention, ça va commencer, t'as un peu le bruit, c'est presque quelque chose d'un peu théâtral. Et maintenant, bah, les gens, bah, c'est presque un peu triste parce que tu vas dans les mêmes salles des ventes maintenant, bah, t'arrives, il y a toujours 20-30 fauteuils de libre, ce qui était inimaginable il y a encore 4 ou 5 ans.
Tout se fait par Internet.
Ouais, tout se fait sur Internet, mais. Mais même des petites ventes courantes où, au final, c'est là où tu te marrais. Les ventes courantes, c'est les ventes où il y a de tout le courant, quoi. C'est-à-dire que tu vas tomber sur les tables de cuisine, tout ça. Et ça, tu faisais ces ventes, mais tu tombais avec des petits brocs et tout. Et je peux te dire que ça parlait fort. Ça fumait des clopes dedans. Enfin, la loi est 20. Enfin, non, mais voilà. Il y avait une.
Ambiance bistrot, quoi.
Ouais, un petit peu. Mais parce que voilà, c'est ça qui est bien dans les ventes aux anges, dans les salles des ventes, c'est que tu vas pouvoir côtoyer à la fois des. Enfin, le panel de gens que tu vas rencontrer, il est énorme, quoi. Ça peut être des gens à Marseille qui sont capables de dépenser 50 000 euros dans un tableau. Alors, on n'est pas à New York, on n'est pas à Paris, mais à Marseille, il y a quand même des gens qui sont capables de dépenser cette somme dans un tableau. Et à la fois, tu as des petits brocs qui vivent de trafic, de casseroles, de cartons de casseroles, de trucs qu'ils achètent 10 euros remplis de vaisselle et voilà, et qui n'ont pas pris une douche depuis longtemps.
Ah ouais, maintenant, on ne va plus ça. Tout se fait par Internet. Enfin, beaucoup.
T'en vois encore, non, n'exagérons pas, dans les ventes courantes un petit peu, parce que c'est les petits brocs et ils aiment pas eux, mais bon, sur les maintenant, c'est... Ouais, les salles, t'en vois rarement une où c'est rempli, donc l'ambiance, elle est un peu retombée quand même, hein. Bon, c'est comme ça, tu vas pas dire c'était mieux avant, mais quand même, moi je le sens que là, depuis 3-4 ans, où, voilà, et je pense que le Covid n'a fait qu'accélérer cette évolution qui serait arrivée, mais clairement le Covid l'a fait accélérer à fond.
Alors, il y a quand même un rapport à l'argent qui est assez fort à partir du moment où tu dois estimer, acheter, acquérir, et dans l'hypothèse de revendre. Est-ce que parfois tu peux te faire peur, tu sais, sur le côté est-ce que je monte encore au-dessus de l'acheteur à côté
Et alors, je peux te dire quelque chose, c'est justement, si on veut parler du rapport à l'argent, moi, quand j'étais en salle des ventes et j'ai compris ça, c'est que j'avais l'histoire d'un monsieur qui avait laissé un lustre et c'était un ami du commissaire-priseur, il en voulait 600 euros. On l'a passé 4-5 fois, c'était un lustre en bronze. Et à un moment, au bout de 5-6 fois, je l'ai appelé, je sais que vous êtes un ami du commissaire-priseur, mais comprenez-moi, moi, je ne peux pas installer, désinstaller ce lustre. Donc, venez le récupérer, on l'a passé 4-5 fois, on ne le vend pas à 600 euros. Et il me dit, mais vous pouvez passer une dernière fois. Et je veux le choquer. Je dis, écoutez, si on le passe, oui, mais il va démarrer à 30 euros. Donc, c'est à vous, vous êtes au courant. Mais venez le récupérer parce que je n'ai pas envie que vous ayez une mauvaise surprise. Bon, il me dit, quand même, vous n'allez pas le vendre 30 et puis je ne peux pas le récupérer. Donc, un peu, il me dit, bah, allez, on essaye. Et en fait, là, tu pars à 30 euros. Et là, il y a une forêt de bras dans la salle qui se lève parce qu'à 30 euros. Mais... Et puis tout d'un coup, tu vois le voisin qui monte. Donc, tu dis, bah, allez, moi, je le veux. Et le lustre, il s'adjuge 800 euros. Et en fait, tu le rappelles, le monsieur, tu dis, on aurait dû faire ça dès le début, quoi, en fait. Parce que voilà. Et je pense que des fois, en salle des ventes, plus tu pars bas, plus ça va exciter les gens. Et plus il y a une espèce, justement, de. C'est pour répondre un peu indirectement à ta question. Mais plus tu vas te retrouver, en plus, avec le gars qui est en salle à côté de toi, qui va. Putain, lui, enfin, il m'énerve, il monte sur moi, allez, je remets une enchère et tu vas
Il y a le désir
dépasser.
de l'autre qui
Ouais.
provoque le désir
Mais c'est
de...
super important parce qu'au début, oui, je pouvais m'emporter à te dire, tiens, ça, je veux l'acheter, c'est estimé 200 euros, je me mettais 600 et parfois tu t'emportes parce que tu dis, ah, mince, enfin voilà, je le veux et tout. Et puis maintenant, je sais que mon travail aussi, c'est de bien avant la. Par exemple, si c'est pour les ventes aux enchères, hein, mais c'est pareil sur les brocantes, il faut encore plus décider vite sur les brocantes parce que si c'est bien, ça ne va pas y rester longtemps. Te dire, voilà, ce tableau, clairement, je vais l'acheter jusqu'à tel prix. Et sauf, pardon, et sauf, dit, sauf tu t'accordes peut-être 10% de souplesse, mais maintenant, tu essaies de respecter à fond et il vaut mieux ne pas l'avoir que trop l'acheter trop cher. Et c'est pareil pour les brocantes, il vaut mieux revenir sans rien. Tant pis, tu t'es fait 200 bornes dans la matinée. T'as rien trouvé, mais maintenant, c'est marrant, je pense qu'au début, ça m'embêtait de revenir sans rien, tu vois, d'avoir bossé dur, de t'être levé tôt, et maintenant, presque, c'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux revenir sans rien que revenir avec une tartine que tu vendras pas, qu'il fallait peut-être pas acheter parce qu'elle est pas intéressante.
Il y a des modes, il y a des tendances.
À fond. Il y a 20 ans, si on reste dans les tableaux, par exemple, il y a 20 ans, c'était à fond la mode des tableaux, ce qu'on appelait orientalistes, c'est-à-dire que c'était tout ce qui était justement, on revient un petit peu sur les peintres voyageurs, et voilà, ça s'est tombé, vraiment, ça vaut plus grand-chose. Et puis alors, si on parle d'un artiste marseillais, assez connu, puisque il s'appelait Adolphe Monticelli, et qu'il y a des quartiers Monticelli, il y a la clinique Monticelli. Et quand moi je suis arrivé en salle des ventes, c'était, tu voyais régulièrement qu'il y avait un tableau de ce peintre qui passait en salle des ventes, il faisait 40, 50 000 euros. Mais c'est vrai que ce peintre était assez précurseur. Hein, c'est quand même grâce à. Enfin, on dit que Van Gogh est venu en Provence sur ses traces, parce que c'est vrai qu'il avait une touche très intéressante, très vibrante pour l'époque. Hein, il était assez novateur. Mais c'était des tableaux, pareil, des scènes de parc, un peu marron, marronâtre. Voilà, tout en reconnaissant justement le côté précurseur du peintre, moi j'étais le premier à me dire, j'ai pas envie d'avoir un tableau de Monticelli chez moi. Et j'étais étonné que ça fasse ce prix. Et maintenant, quand tu vois les tableaux de Monticelli passer en salle des ventes, ils font 10 000. Et c'était 15 ans après. Et tu te dis, waouh, en 15 ans, quand je voyais tous ces Marseillais qui achetaient mais à gogo, dès qu'il y en a un qui passait, ils faisaient allez, on va dire, entre 30 et 50, voilà, mais tout le temps.
Donc placer son argent dans l'art, c'est pas forcément une assurance que...
Ah non, ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout, parce que je te demande si je me dis, mais toutes ces familles marseillaises qui ont acheté ça, maintenant, et qui voient qu'on se le dévend, maintenant, ça fait, allez, on va dire entre 7 et 12, alors que ça faisait entre 35 et 50 il y a 15 ans.
C'est
Oui.
énorme. Divisé par 5, quoi.
Ouais, 4 ou 5, quelque chose comme ça, donc.
En revanche, est-ce que ça peut arriver à l'inverse que tu mises sur une toile en te disant ça va peut-être prendre de la valeur plus tard? Ou c'est impossible de prévoir les tendances? La
Si, je pense que
baisse et la
parfois
hausse?
tu peux prévoir certaines tendances. Moi, je connaissais quelqu'un qui, il y a 25 ans, très jeune, s'est intéressé à tout ce qui était art asiatique et même, on va préciser, parce qu'en fait, c'est pas art asiatique, c'est art chinois. Et qui, il y a 15-20 ans, on va dire il y a 15 ans, l'art chinois, il a explosé. Mais le marché chinois, il a explosé. C'est-à-dire que des pièces qui valaient 5 000 euros, elles valaient 50 000 euros quelques années après. Et lui, il avait beaucoup acheté. Et quelque part, tu pouvais peut-être prévoir qu'à un moment, la Chine allait. Enfin, c'était pas impossible à y penser. Après, il fallait y penser. Mais c'était pas avec le. C'est parce que je dis ça qu'il y a le recul et tout. Mais d'un côté, c'était pas non plus impossible de penser ça, tu vois.
Est-ce que tu sais combien tu vas gagner chaque mois?
Ah non! Ah non.
Pas du tout.
Non, 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 et puis il faut étaler sur une année, moi, clairement, parce que il y a des mois où je gagne très bien ma vie et il y a des mois où je gagne pas du tout bien ma vie, mais clairement. Et
C'est
donc ça, il faut
clivant?
lisser sur une. Bah oui, c'est du stress parce que. Alors, c'est du stress, oui, et à la fois, je me dis, ça fait 12 ans que j'y arrive.
Donc
Donc.
chaque année qui passe te rassure un peu plus sur...
Ouais, oui.
Ouais. Tu gagnes à peu près la même chose depuis 12 ans?
Oui, à peu près, si on lit sur l'année, oui.
On est sur combien l'année?
Autour de, je sais pas, 75-80 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas non plus
Ça veut dire que
énorme.
dans ta poche, toi, tu gardes combien dans ta poche? Chiffre d'affaires, tu vends, t'achètes. Donc,
Ah oui, c'est parce que je gagne ça. Non,
non.
non, non.
C'est quoi, c'est la
Mais
moitié?
alors, je sais pas, il n'y a pas de marge en plus. J'avoue qu'autant, je vais essayer de faire ma compta comme il faut, mais y a des tableaux sur lesquels tu vas multiplier par 5, et même il y a des fois où tu as pu multiplier par 10, et il y a des tableaux que, si à un moment je les ai dans mon stock depuis longtemps, il y avait un tableau où je crois qu'il portait le numéro 11, justement sur mon liste de police. J'arrivais pas à le vendre, je commençais à me dire celui-là, je vais mourir avec, tellement, tu vois, tu as essayé de le vendre en gagnant de l'argent, après coup de temps, tu n'y arrives pas. Et j'avais dû payer 450 euros, il y a un an, je l'ai vendu 150, j'étais super content de l'avoir revendu. Et pourtant, j'ai
Débarrassé.
perdu 300 euros dessus, mais
Ouais.
bon. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, mais à un moment, bon, tu te dis, tiens, c'était il y a 8 ans que je l'ai, à un moment, il faut... Et puis, tu apprends aussi comme ça, hein. On dit souvent que les erreurs, t'apprends, mais... Avec le recul, je me disais, mais pourquoi à l'achat, j'avais acheté ça à 450 euros? Mais c'était le début, voilà, c'était le numéro 11. J'avais pas encore tout
T'es
bien compris,
calé.
voilà.
Et tu sais combien tu dépenses par mois à peu près dans ta vie?
Je suis pas. Alors là, sur les questions compta et compagnie, je sais que mon activité me fait vivre, que j'arrive pas trop avec ce chiffre d'affaires, c'est clair, tu mets pas trop d'argent de côté. Mais disons que je vis de ma passion et j'arrive à financer ma vie, enfin à payer ma vie et tout, quoi. Après, tu mets pas. Mais oui, tu as du stress quand même, parce que oui, tu sais pas ce que va être un peu demain, tu vois. Tu sais pas si demain tu vas trouver un super tableau, si tu vas vendre, si tu vas.
C'est quoi à peu près la somme qui sert à l'achat de tableau?
T'as pas vraiment de. Mais c'est clair qu'il faut que tu aies une réserve un peu, parce qu'un tableau, moi, à l'achat, ça va être. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais à l'achat, ça, moi, un tableau, à mon niveau, un tableau à l'achat, moi, je vais le payer entre, allez, on va dire 80 euros et j'ai pu acheter des tableaux à 3 000-4 000, mais c'est à peu près moi dans ma fourchette. Mais disons que voilà, il faut quand même que tu aies un minimum de fonds d'au moins 10-15 000 tout le temps parce que bah, tu
Qui seront
t'aperçois.
immobilisés en fait par
Bah, on ne sait jamais si
ouais.
tu as un truc à acheter, que tu ne sois pas bloqué. Et puis ce n'est pas non plus grand luxe, hein, parce que 10-15 000, enfin voilà, si tu achètes un tableau à 3-4 000, que dessus, il faut vivre. Donc oui, tu essaies d'avoir une marge au moins un peu comme ça pour à pouvoir assurer, juste acheter. En fait, que tu ne sois pas empêché d'acheter un tableau s'il est top et ne pas passer à côté, voilà. Et même s'il faut mettre 3-4 000 euros.
C'est flippant quand tu fais ça, quand tu achètes un tableau par exemple à 4000 balles.
Oui. Ah oui, des fois tu te poses un peu des questions, puis c'est un métier où tu n'es jamais satisfait. Soit le tableau, tu ne vas pas l'avoir, et puis tu vas te dire, ah mince, je ne l'ai pas eu. Et puis soit, ou alors tu vas l'avoir, mais tu vas dire, mince, je l'ai eu, mais je l'ai payé trop cher. Donc il y a toujours une petite phase où tu râles, mais je crois que ça aussi, avec l'expérience, ça commence un peu à s'atténuer. Et puis ces trucs-là, mais oui, quand tu mets ça, c'est un pari. Et je sais que moi, souvent, j'étais avec des copains. Tu veux faire un poker ce soir? Je dis non, mais absolument pas, quoi. Si tu veux, déjà, je viens de mettre 4 000 euros dans un tableau cet après-midi, donc j'ai absolument pas en plus envie d'aller faire un poker.
T'es fort en ego pour acheter les trucs, pour faire baisser les prix et tout, si t'es sur une broque face à un vendeur.
Ça s'apprend, ça aussi. Puis il faut être respectueux du vendeur et puis à la fois ne pas avoir peur de demander, de le faire avec le sourire, d'essayer d'avoir un prix, mais tout en ne tordant pas le vendeur et en comprenant qu'à un moment,
Ah, tu penses à
tu.
ça. Tu penses aussi, tu veux pas
Bah
forcément
après,
chercher à
si.
avoir
Non,
le.
parce qu'à un moment, tu sais des gens avec qui tu peux retravailler, donc tu vois l'effort qu'il fait. Si tu sens que l'effort qu'il fait, il est valable. Après, tu as des gens, je sais que ils vont essayer d'y aller jusqu'à tordre totalement le vendeur est presque assez un peu ce foutage de gueule, quoi. C'est pareil, moi, quand je fais une brocante et que la personne me dit ben, ce tableau, il vaut 1 000 euros et que moi, je sais que j'étais intéressé à 300 euros, je vais même pas commencer les négos.
Ah
Tu
oui,
vois?
carrément,
Oh, ben non, là,
lâches.
t'es trop loin de ce que moi, je pensais. Après, voilà, c'est s'il te dit un prix qui est pas loin, là, t'essaies de négocier.
C'est un petit milieu, non?
Ouais, et à la fois, oui, c'est un petit milieu. Et à la fois, quand tu fais des grosses brocantes, en particulier du côté d'Avignon, et même les gros déballages, tu vois qu'il y a du monde, hein. À ces déballages à Avignon et Montpellier, il y a quand même.
À la première heure, j'imagine, parce que...
Alors non, les déballages, c'est pas la première heure. Alors, il y a les brocantes qui sont le week-end, ça, c'est quelque chose où tu es à 6 h du matin. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle des déballages professionnels. C'est en particulier dans la région, il y en a Avignon et Montpellier, c'est environ une fois toutes les 6 semaines. Et c'est dans les parcs expo de Montpellier et d'Avignon. Et là, non, parce qu'en fait, ça s'appelle déballage parce que les vendeurs ont juste le droit la veille de venir poser leur camion ou leur estafette sur leur emplacement. Ils sortent, ils vont à l'hôtel. Le lendemain, tout le monde se retrouve à 7 h 30, 8 h moins le quart. Les portails du parc expo sont fermés. À 8 h pétantes, les portes s'ouvrent, on a une entrée de solde. Et là, tu as tous les gens qui se ruent, les vendeurs comme les acheteurs, et ils commencent à déballer. Donc tu vois, au tout début, les gens qui sortent tout du camion. Et là, alors peut-être un peu moins depuis justement le Covid, mais tu as la planète entière. Il y a des gens de Chine, il y a des Américains. Il y avait un mec l'autre jour à côté de moi, il était de Bogota. Enfin.
Les gens à qui tu vends, c'est des gens que tu rencontres souvent ou c'est très dématérialisé?
C'est beaucoup, malheureusement. Bah, à la fois, je dis malheureusement, et à la fois, je suis content de ne pas avoir une boutique à ouvrir à 15 h. Et puis, dans ces boutiques-là, on sait que voilà, il y a deux pelés qui vont passer dans la journée. Donc, à la fois, je vais dire oui, ça me prive un peu de certains rapports humains. Quoique j'en ai quand même, mais oui, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, j'expédie beaucoup.
T'as des clients fidèles?
Oui.
Des gens qui te font confiance pour avoir des pièces intéressantes et qui sont prêts à t'acheter, à
Oui, ou
racheter, ou que
plus.
tu vas rappeler toi-même en disant, tiens, j'ai
Alors
celui-là
ça,
qui vient de
j'aimerais bien le
rentrer.
développer. Ça arrive, mais par exemple, alors là, c'est autre chose. On est encore chez quelqu'un qui est vraiment amoureux de tel artiste. Mais je sais que si je trouve un tableau de cet artiste, il y a un monsieur qui vit à Paris qui me les achète systématiquement, mais systématiquement.
Systématiquement,
Ah,
mais
mais
ça veut
parce
dire que...
qu'il aime, je sais pas qu'est-ce qu'on en sait chez lui. Hein, mais alors lui, en plus, je suis pas sûr qu'il les accroche parce qu'il en achète tellement. Là, j'avoue que je comprends pas trop. Là, bon, après, c'est le feeling, mais je comprends pas cet amour et puis cet achat. Parce que chez lui, tu te dis non, mais c'est pas possible, il les accroche pas au mur. Il doit les stocker quelque part. Hein, il doit. En se disant peut-être, j'en sais rien, il doit l'aimer l'artiste. Hein, tu fais pas ça non plus. Mais est-ce que effectivement, c'est en te disant tiens, il est pas cher et ça vaudra plus cher. Mais waouh, je suis persuadé qu'il les achète et qu'il stocke.
Il y a des collectionneurs fous comme ça, enfin des gens qui vraiment sont prêts à mettre tout leur argent
Ah
dans...
ouais, en particulier là, alors là on est, c'est la différence parce que entre l'objet d'art et l'objet de collection, alors parfois un objet d'art peut être un objet de collection, mais c'est pas toujours vrai. Et en particulier dans les ventes, je le voyais moi de cartes postales, de livres, de choses comme ça. Si tu as une carte postale, un livre qui est méga rare, bah ça va se jouer sur un marché de 5 personnes et sur ces 5, tu en as deux ou trois qui vont être capables d'aller loin. Et ça suffit à faire un prix de fou. Et ça se joue pourtant sur un petit nombre
Donc
de.
c'est des surpassionnés
Ah ouais.
de façon quasiment irrationnelle
Ah
qui
ouais,
ont
un
également des
irrationnel
moyens.
totalement.
Ah ouais.
Ah bah oui, forcément pour collectionner. Mais je pense qu'il y en a quand même qui, des fois, se foutent dans la mer. Mais t'as des collectionneurs où ça tire un peu vers la pathologie, t'as l'impression, clairement. Mais je dis pas que chaque collectionneur, il y a une pathologie dedans, mais.
Toi, t'as jamais connu de moment de dèche?
Dans mon travail, de vraiment, non. Bah, il y a des moments où tu te dis, là, il va falloir arrêter d'acheter et puis vendre un peu parce que ça peut faire peur. Et justement, ton matelas de sous que t'as, il commence à diminuer et tout. Donc, il y a des fois où tu as pu avoir peur. Mais dans l'ensemble, ça fait 12 ans que j'ai monté ma boîte et je suis toujours là. Et comme tu disais, plus les années passent, plus ça devient rassurant. Tu te dis, oh, bon, ça fait quand même 12 ans que je le fais. Donc, bon, c'est pas facile, mais je le fais.
À t'écouter, on a l'impression qu'il y a un côté quasiment scientifique qui permettrait de distinguer une bonne œuvre d'art d'une mauvaise œuvre d'art. Ou en tout cas, une œuvre d'art qui a une valeur, y compris une valeur pécuniaire, d'une œuvre d'art qui n'en a pas ou qui en a peu.
C'est une sensibilité, le prix. C'est pour ça que je dis le prix que tu mets dans un tableau. Voilà, il y a quelque chose de très commercial et machin. Mais à la fois, c'est vraiment par rapport à la sensibilité que tu as au tableau, en te disant, ah bon, mais déjà, esthétiquement, il est beau, mais en plus, la façon dont c'est peint à cette époque, mais waouh, il y a quelque chose de chouette. Et là, tu es capable, même moi à l'achat, de te dire, ah ben tiens, je vais mettre plus haut que la cote parce que des fois, il faut tenter. Tu vois, je reprends un autre exemple, mais d'un tableau que j'avais acheté à Paris, que j'avais acheté 1600 euros. Mais il était juste magnifique, déjà dans les couleurs. En plus, ce sujet, c'était les années 30. Et c'était un paquebot qui arrivait dans le port de New York. Et si tu regardais la cote de l'artiste, en gros, c'était coté autour de 300 euros. Le tableau, je l'ai payé 1 600. Et là, tu te dis, ouais, est-ce que j'ai pas craqué? Mais en fait, le tableau, il y avait quelque chose de magique. Et 10 jours après, je l'avais vendu. Parce que ce tableau, il avait quelque chose d'hyper intéressant, même par rapport au building qui était construit. Et ce qui n'était pas construit, j'ai pu déterminer à 2 3 ans près quand le bateau arrivait dans le port de New York. Tu vois, des vraies recherches et tout. Et par exemple, ce tableau, il n'aurait pas eu le même intérêt s'il avait été peint dans les années 50, un temps après. Mais pas du tout le même intérêt. Là, on est dans les années 30, on est, tu vois, c'est plus vieux, c'est le début du, enfin, des grands voyages, enfin, voilà.
Ça veut dire que tu fais confiance aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui aura la même sensibilité que toi et qui sera d'accord pour l'acheter à un prix également.
Disons que si je suis sûr de moi, ce qui n'arrive pas tout le temps, mais les fois où je suis sûr de moi, je ne vais pas le garder, le tableau.
Et les clients, ils grattent? Ils essaient de faire baisser le prix?
Ouais, ça peut arriver. Mais ça peut arriver, mais c'est pareil. C'est pour ça que moi, quand je veux acheter à quelqu'un, je respecte si vraiment le prix est loin. Parce que les gens qui tu affiches un prix sur un site d'un tableau à 800 euros, le mec, il t'appelle pour t'en proposer 400. T'as envie de lui dire non, mais tu perds pas ton temps. Voilà. Enfin, voilà. Et puis, c'est même manque de respect. Tu crois quoi que je l'ai peint et que. Non, non, je me suis levé à 5 heures du matin pour courir à l'autre bout de la Provence. Enfin, tu vois.
Ah oui, c'est ça, t'as des frais aussi,
Donc,
t'as du temps,
oui, du temps, tout
t'as de
ça. Donc,
l'essence,
ouais, non, mais
t'as de
voilà, c'est pour ça. Et puis,
l'immobilisation de
tu mets un
l'argent.
prix. Alors, le mec, s'il a envie de négocier, de l'avoir à 750, 700, il négocie un peu. Mais bon, moi, j'essaie de mettre les prix les plus justes. J'essaie de. Je pense que le fait que de temps en temps, je vende même à des marchands, c'est que je dois avoir des prix qui sont au juste prix, qui sont pas hors de prix. Voilà.
Il y a des jours où t'as la flemme, t'as plus envie, t'as pas envie de bosser.
Ouais, mais comme tout le monde, mais à la fois, après, au bout de 2 secondes, tu dis, j'ai pas le choix, de toute façon, donc voilà.
Mais la
Oui,
passion,
non,
c'est
mais
pas
ça peut
forcément tous les
arriver,
jours,
parce que
quoi.
tu y a
Ouais.
des moments où bah, tu peux avoir. En plus, moi, c'est hyper particulier, parce que tu peux bosser dur pendant. Moi, des fois, je dis, attends, j'ai passé une journée à bosser, ah ben c'est chouette, tant mieux. Mais moi, travailler, je peux bosser 15 jours sans rien gagner, sans rien trouver, sans que tu vois des choses aux enchères, mais qui t'échappent, et tu viens de te faire 15 jours de boulot intensif, et t'as rien gagné. Et clairement, le jour d'après, ben, tu vas aller dans un truc ou trouver un tableau qui, hop, va te faire la moitié d'un mois ou enfin une super découverte. Donc, oui, tu passes par des coups de blues. Mais clairement, il y a des moments, bon, je te dis, après, avec l'expérience, ça s'atténue. Mais il y a des moments où tu as des doutes quand tu as passé 15 jours à bosser comme un fou et que tu n'as aucun résultat et que tu n'as rien gagné. Ouais, tu doutes et. Et heureusement, tu tombes pas dans une déprime parce qu'il faut. Mais bon, tu commences à douter, voilà.
Ah, en plus, si tu commences à te laisser avoir par le trop de doutes, tu peux faire des mauvais choix, tu peux.
Cas, je prends 9 tableaux sur 10 que j'achète, je sais pas à qui je vais les vendre. Donc, oui, il y a un petit côté. Alors, quand tu dépenses, j'allais dire 300-400 euros, ça va. Mais quand tu commences à mettre 3-4 000 sur un tableau, voilà, tu te fais un peu une suée, tu vois.
Tu progresses pas, tu gagnes pas plus d'argent qu'il y a 12 ans. C'est bizarre quand même. Parce que tu devrais être devenu meilleur.
Ouais, mais le métier est. Bah, d'ailleurs, j'ai progressé en 2020 et 2021, là, les 2 dernières années,
Ah ouais,
mais
les années Covid, c'était bien.
moi, j'en ai profité parce que je vendais ce que j'aurais pas cru, mais je vendais sur Internet. Au début, quand il y a eu la crise du Covid, je me suis dit, mais j'ai pas du tout travaillé. Qui a envie d'acheter des tableaux? Et, mais en fait, les gens étaient. Et c'est quelque chose que j'ai pas compris, mais en fait, les gens étaient chez eux. Et en fait, ne faisaient rien, ne dépensaient pas de resto, de voyage, et étaient chez eux devant leur écran. Donc du coup, oui, je fais partie de certains métiers qui ont profité à fond du Covid. Et à la fois, je reste à peu près dans un chiffre d'affaires, donc je progresse pas. Mais le métier, il est quand même beaucoup plus dur que quand j'ai commencé il y a 12 ans, mais clairement, parce que le fait que maintenant même une petite vente est sur Internet, que tu peux regarder partout, tu as forcément plus de concurrents. Et clairement, le métier, il est beaucoup, beaucoup plus dur qu'au début, hein. Quand j'ai commencé il y a 12 ans en salle des ventes, c'était un peu la prime à celui qui se bougeait le cul. Enfin, excuse-moi, mais c'était ça. Maintenant, une petite vente, comme je dis, tu es aux États-Unis, tu peux la suivre à Marseille, tu peux donc, tu as quand même beaucoup plus de concurrence. Et le métier, il est clairement beaucoup, beaucoup plus dur qu'il y a 12 ans. Mais clairement. Donc, je suis à la fois, j'ai quand même progressé là ces deux dernières années, mais je suis content de quand même maintenir à peu près ce cap-là. Bon, de me dire au moins, je baisse pas, alors que clairement, c'est mais clairement beaucoup plus facile. Il y a l'exemple type, c'est qu'il y a 10 ans, j'allais en salle des ventes, dans une belle vente, je ressortais avec les bras chargés de tableaux. J'en achetais 7, 8, 9. Là, maintenant, si j'en sors avec un ou deux dans une vente, et oui, parce que maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, donc le métier, il est clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur.
Qui fixe les cotes, la cote d'un peintre?
Ah mais ça, c'est personne, c'est des résultats de vente.
Ah, c'est juste...
Alors non, mais t'as un livre qui est... Alors c'est marrant parce que tous les souvent sur les antiquaires, ils ont ça, ils ont ce qu'on appelle la coune, qui est un livre de cote. Mais pour moi, c'est de la trapenigo parce que t'as l'impression qu'ils te font des prix de peintre au mètre carré. Et puis voilà, une cote pour un artiste, pour moi, ça veut rien dire en fait parce que... dans des résultats de peintre, et tu peux avoir des rapports de 1 à 20 en fonction de l'époque, du sujet, du format, du côté esthétique. Enfin, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte que.
Ouais,
non, mais chez un même artiste, tu peux avoir des rapports de 1 à 20. Donc, comment tu peux dire tel peintre vaut tel prix? Pour moi, c'est pas possible. Autant je peux te dire ce tableau, il vaut tel prix. Ça, je suis entièrement capable. Te dire comme ça, j'ai des gens qui me disent tiens, j'ai un tableau de tel artiste, qu'est-ce que ça vaut? Mais moi, je dis aux gens, bah, je ne sais pas faire ça. Tu vois, je suis désolé, je ne sais pas faire. La personne qui va dire tel artiste, il vaut telle cote, pour moi, c'est du pipeau.
On t'emploie aussi maintenant pour estimer des tableaux.
Ouais, j'ai pu le faire. Ouais, j'ai pu le faire. Ouais,
ça veut dire que ta parole,
même pour,
ta
même
parole est d'or. Ta parole,
bah, j'ai un peu d'expérience. En salle des ventes, tu le faisais. Hein. Mais là, j'ai même des amis, même très souvent, qui savent que je peux avoir des renseignements parce que j'ai tout un réseau d'experts derrière moi, de gens que je connaissais par la salle des ventes, c'est-à-dire une experte en monnaie, en art africain, en machin, enfin tu vois, donc j'ai tout un... Donc il y a parfois, et puis des trucs aussi que je sais moi-même, donc même amicalement, quand il y a des amis qui me disent « Tiens, Marco, tu peux m'aider, je sais pas ce que ça vaut... » Ben ouais, ça, soit je le sais pas et puis je fais des recherches, soit je le sais et puis je le dis, tu vois.
Il y a un côté Sherlock Holmes, il y a un côté...
À fond, oui. Bah oui. Et puis, d'enquête, de recherche. Et c'est pour ça que je dis aux copains souvent, parce que plein de gens, ça les interpelle ce que je fais. Je leur dis, le plus dur, c'est pas de vendre dans mon métier, hein, même si c'est pas facile. Mais le plus dur, c'est pas de vendre, c'est d'acheter, quoi. Hein, c'est de se bouger les fesses, d'aller pas hésiter, d'aller faire des tours, même... chez des antiquaires de la région, d'aller boire le café avec eux, tu y vas 8 fois sur 10, tu vas rien trouver, et puis à force de tourner, tu essaies de créer des contacts, tu te fais les brocantos, tu passes tes journées devant Internet, oui non, c'est un sacré boulot de trouver.
Hein. Il y en a pas qui se mettent d'accord en salle des ventes?
Ouais, mais à l'époque, il y avait même ce qu'on appelait un peu une espèce de les marchands... s'enchérissaient pas, s'il y en a un qui voyait que l'autre enchérissait pas, et puis ils se refaisaient presque les enchères entre eux. Voilà. Et maintenant, avec Internet, c'est un peu plus dur. Mais oui, il y avait pas des mafias, parce que c'est pas ça, mais t'avais quand même un peu...
Des accords, quoi. Et y en a qui pourraient te traquer aussi pour voir, parce que comme t'as bon goût, pour te piquer tes...
Ça le dévente des fois quand tu regardes un tableau, parce que... Alors, c'est le cas avec une copine qui fait aussi de l'art asiatique... quand il y a 3 objets d'art asiatique et qu'en salle des ventes, il n'y en a qu'un qui est vraiment intéressant, elle va bien faire de regarder les 2 autres qui n'ont aucun intérêt parce qu'il y en a qui savent qu'elle s'y connaît. Donc, si elle bloque trop sur un objet, le mec, il va attendre qu'elle parte et c'est déjà arrivé qu'il va aller regarder derrière elle. Donc, si tu veux, elle a appris en salle des ventes, s'il y a 3 trucs devant elle, qu'il n'y en a qu'un intéressant, elle va regarder si c'était les 2 autres, tu vois.
Après, quand la vente commence... Les gens, ils voient bien sur quel objet elle...
Non, parce que... à une époque, oui, mais maintenant, tu peux enchérir sur le net, tu peux enchérir par téléphone, donc tu peux être anonyme si tu en as envie.
Tu peux cacher ton jeu, maintenant.
Voilà. tu peux être anonyme, mais rien que le fait pendant l'exposition, le fait, tu vois, que s'il est passé, est-ce qu'elle s'était aperçue une fois, tu vois, qu'il y avait un superbe plat, qu'elle avait photographié sous tous les angles, et puis t'as les petits brocs, là, ah ouais, putain, si elle regarde, c'est que ça doit être top, tu vois, et du coup, qu'ils se mettent en chair contre elle, alors qu'ils savent même pas ce que c'est.
Ah, c'est quand même un milieu... C'est un milieu dur, en fait.
Ouais.
Ouais.
Oui, non, c'est pas évident, non. C'est...
Money, money. Attends, j'ai quand même une vraie question. T'es jamais tombé sur un faux ?
Ça a pu m'arriver, là, d'acheter un tableau une fois 1000 euros, quand même, et il s'est avéré que c'était un faux, ouais. Et...
Comment tu...
Mais à la fois, on me l'avait pas vendu comme un vrai. C'est moi qui l'ai...
T'as cru faire une super affaire ?
Ouais, et j'ai cru qu'il était vrai, mais je connaissais pas très bien l'artiste. Mais à la fois, je vais te dire, il y a certains peintres, je suis tout à fait capable, quand je les connais, de te dire il est vrai ou il est faux, parce que j'ai quand même l'œil, et les artistes que je connais, quand j'ai vu 10 tableaux, après, en salle des ventes, ça m'arrivait de refuser des tableaux en disant non, vos tableaux, ils sont faux, parce que c'était un peintre marseillais qui s'appelait Pierre Ambrogiani. Et j'en ai vu pas mal, et on m'en a amené où c'était des faux. Je disais non, bah écoutez, je vous, enfin voilà, je suis pas expert, je sais pas, mais j'ai quand même un petit peu d'expérience, et je vous le promets, j'en suis sûr à 200% que ces tableaux sont faux.
Ah, donc il n'y a pas que des faussaires de Van Gogh ou Gauguin, quoi. Il y a des faussaires de...
Ah oui.
Il y a des faussaires de tout.
Ouais, ouais. Mais même des fois, il y a des choses. On m'a amené à la salle des ventes, un mec qui t'a amené les tableaux et qui paraissaient tous anciens. D'une vue de vieux port et compagnie, mais en fait derrière tu t'aperçois que le panneau il était pas très vieux, et pareil, en plus ça me faisait délirer parce que je me disais non mais le truc, le peintre il s'appelait Honoré Jacquet, si tu veux, Honoré, ça sent bon la France, Jacquet ça sent bon la biscotte, et tu vois, comme si le nom il avait été choisi, et puis des trucs de Marseille, mais en fait, mais le mec, hein, j'ai dit non mais faut arrêter, c'est des trucs peints en Chine, vous avez fait des commandes, vous avez trouvé le nom, parce qu'Honoré Jacquet il n'a jamais existé, Honoré Jacquet. À Marseille, t'envoyais tourner dans les salles des ventes, Honoré Jacquet n'a jamais existé.
Génial.
Ah ouais, le truc de fou, quoi. Tu dis, puis en plus, je me rigolais, j'étais à Honoré Jacquet, comme le nom.
Ils sont vendus.
Ça sent bon la Provence et compagnie.
Ils sont vendus.
Bah, il ne les vendait pas une fortune, mais il les vendait quand même. Et tu te dis, c'était fait où ? C'est en Roumanie, on ne sait pas où. Puis c'était que des scènes du vieux port, donc un truc un peu commercial, des voiliers à l'entrée du port. Et à un moment, je me suis dit, c'est qui, c'est Honoré Jacquet ? Puis en fait, il n'a jamais existé, ce Honoré Jacquet. Puis acheter, putain, ils sont forts pour le nom.
Pour le marketing.
Ouais, comme prénom, comme nom, quoi. C'est plein, ça sent pour la Provence, ça sent les cigales, ça sent le, tu vois, la biscotte.
Et les cambriolages de tableaux, les vols purs et durs.
Alors, les vols, bah, je sais pas trop quoi te dire. Moi, j'ai jamais été cambriolé. Après. Ils ont intérêt à bien choisir, par exemple, ici, parce que s'ils piochent dans les deux tiers du stock dont je t'ai parlé, qu'il y a un peu des mauvais achats, je pense que bon...
Ils vont se retrouver avec des croûtes.
Ouais, ils vont se faire chier à les revendre, tu vois, voilà. Après, ils peuvent prendre des trucs qui sont bien aussi, mais...
Ouais.
Mais ils ont intérêt à avoir un peu de... Parce que s'ils piochent dans le stock et qu'ils tombent sur un vieux truc que j'ai depuis 5 ans, bon, je vais pas trop le pleurer, et puis ils vont avoir du mal à le revendre, en plus, tu vois.
Donc t'es pas trop inquiet de te faire cambrioler.
Ah putain, il y a du bois là, ouf. Là.
Ah, t'as que faire quand même. Ok, merci Marc. Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Tiffany Guillou, sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en écouter d'autres et à nous soutenir sur Insta, sur Tipeee, sur Facebook, sur Twitter, enfin partout quoi. À bientôt.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.